Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré. À demain. À la une de ce journal, la boulette aux États-Unis où l'administration a partagé par erreur un plan d'attaque militaire contre les Houthis. Un journaliste des élus démocrates dénonce une atteinte à la sécurité nationale. Aucun compte-rendu des pourparlers entre Russie et États-Unis ne sera publié. Précision du Kremlin qui dit analyser le résultat des longues discussions d'hier. Suivi aujourd'hui d'une nouvelle session de discussion entre représentants de Kiev et Washington en Arabie Saoudite sur une éventuelle trêve en Ukraine et notamment en mer Noire. À suivre aussi la dette sous-estimée au Sénégal ces dernières années selon le FMI qui confirme les conclusions d'un rapport de la Cour des comptes. Et puis on verra pourquoi il faut lever le pied sur les aliments à base de soja. Les autorités sanitaires en France recommandent de ne pas en servir dans la restauration collective. Oui, la bourde fait la une de la presse aux États-Unis. Un journaliste a donc reçu, par erreur, les plans, en principe confidentiels, d'une attaque militaire américaine contre les Houthis du Yémen. Il s'est retrouvé en fait dans un groupe de discussion de l'administration sur l'application Signal. Une faille de sécurité retentissante, Lubna Anaki, qui met l'administration dans une position délicate.
I don't know anything about it.
Interrogé par les journalistes, Donald Trump dit n'être au courant de rien. Pourtant, l'affaire secoue Washington depuis la publication lundi matin d'un article de The Atlantic titré « L'administration Trump m'a envoyé ses plans de guerre par erreur ». Dans cet article, le rédacteur en chef du prestigieux magazine raconte comment il a été ajouté le 11 mars à un groupe de discussion sur la messagerie Signal. Faisait partie de ce groupe une quinzaine de membres du gouvernement, y compris Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, J.D. Vance, le vice-président, et Marco Rubio, le chef de la diplomatie. Durant quelques jours, écrit Jeffrey Goldberg, je vois défiler les messages. Le 15 mars, le secrétaire à la défense partage le plan détaillé de raids aériens imminents contre les Houthis au Yémen. Les armes utilisées, les cibles, les horaires. Le journaliste confie que jusqu'au moment où les frappes ont commencé, 2 heures plus tard, il avait de réels doutes sur la crédibilité de ce groupe. Ces révélations ont provoqué de vives critiques, notamment dans le camp démocrate, a commencé par le sénateur Chuck Schumer.
C'est l'une des fuites de renseignements militaires les plus stupéfiantes que j'ai lues depuis très très longtemps.
Il dénonce notamment l'utilisation d'une application non sécurisée pour évoquer des opérations militaires ultra confidentielles. Certains élus réclament désormais une enquête. De son côté, la Maison-Blanche affirme que le président Trump a la plus grande confiance dans son équipe de sécurité nationale. Lubna Anaki, New York, RFI.
Une frappe israélienne en Syrie. Aujourd'hui, dans le sud du pays, elle a fait 5 morts selon les autorités locales. L'armée israélienne affirme là avoir répondu à des tirs. Gaz lacrymogène et canons à eau. En Turquie, une nouvelle fois, la police a dispersé la foule rassemblée hier soir, notamment à Istanbul. C'est devenu un rendez-vous quotidien depuis l'arrestation du maire d'opposition, Ekrem İmamoğlu. Malgré les interdictions de rassemblement, malgré les arrestations, l'opposition appelle à poursuivre la contestation et à boycotter les marques, les médias, les commerces aussi, considérés comme pro-pouvoir. Le président Erdogan, lui, a dénoncé des provocations. L'interdiction de rassemblement à Ankara est prolongée jusqu'au 1er avril. Un dialogue intense, pas facile, mais très utile. Voilà comment un négociateur russe qualifie les discussions avec les États-Unis à Riyad, en Arabie Saoudite. Le Kremlin indique ce matin qu'il n'y aura pas de compte-rendu, que la Russie analyse le résultat de ces discussions et qu'il n'y a pas de date concrète pour de nouveaux pourparlers. De son côté, la délégation ukrainienne a eu aujourd'hui de nouvelles discussions avec les Américains. La session vient de s'achever. Parmi les points sur la table poussés par Washington, il y a une possible trêve maritime en mer Noire où se joue une importante guerre navale, Franck Alexandre.
Grâce à ces 3 ports de la région d'Odessa, l'exportation de céréales ukrainiennes fonctionne à plein régime. Des exportations quasi équivalentes à celles d'avant-guerre. Et pour y parvenir, l'Ukraine a réalisé un véritable exploit naval. Sans même disposer d'une marine de guerre, elle est parvenue à mettre en échec la flotte russe en envoyant par le fond 24 unités dont certaines majeures, comme le croiseur Moskva, les navires amphibies Yamal et Azov, le patrouilleur le plus récent, le Sergueï Kotov, Azov et même un sous-marin, le Rostov-sur-le-Don, qui était en cale sèche à Sébastopol. Au total, le tiers de la flotte russe de la mer Noire a été détruit. La véritable innovation est venue, comme sur le champ de bataille terrestre, de l'utilisation intensive des drones avec les célèbres Magoura, vedettes téléguidées, lestées de 800 kilos d'explosifs. L'un de ces drones a même réussi à parcourir 800 kilomètres avant de frapper le César Kounikov, navire de débarquement près de la base navale de Novorossiysk, située au nord-est de la mer Noire. Un véritable coup de Trafalgar pour la marine russe.
La secte Moon, privée de reconnaissance légale au Japon, aussi appelée Église de l'Unification, fondée en 1954 en Corée du Sud. Elle était dans le collimateur de la justice nippone depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en 2022. Le suspect en voulait à cette église à laquelle sa mère avait donné beaucoup d'argent, l'équivalent de près d'1 million d'euros. Concrètement, cette décision de justice au Japon révoque le statut d'organisation religieuse de la secte Moon, mais cela ne l'empêchera pas de poursuivre ses activités. Au Sénégal, le FMI, le Fonds monétaire international, confirme qu'une partie de la dette, environ 7 milliards de dollars, a été cachée entre 2019 et 2024 par l'administration précédente, sous l'ex-président Macky Sall. Cela confirme les conclusions du rapport de la Cour des comptes publié le mois dernier. Après la révélation d'erreurs dans les finances publiques, le FMI avait suspendu son programme d'aide et épluché les rapports. Édouard Guémaïel, le chef de mission du FMI pour le Sénégal.
Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la DEC pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Donc on peut parler de mensonge.
Il y a une sous-estimation. Donc on a eu une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée.
Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez ?
25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détournés, c'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars.
Le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Édouard Guémaïel, invité de Léa Lisa Westerhoff à Dakar, entretien à retrouver sur RFI.fr. La dégringolade des ventes de Tesla en Europe depuis le début de l'année, les immatriculations des véhicules de la marque américaine propriété d'Elon Musk ont baissé de 49%. C'est ce que dit l'Association des constructeurs européens d'automobiles, une baisse qui pourrait être liée aux prises de position du patron de Tesla, mais aussi dans un contexte de forte concurrence sur les véhicules électriques. En France, un appel à lever le pied sur les produits au soja dans la restauration collective. Galettes, lait ou encore yaourt. Ces produits ont pris de plus en plus de place dans les rayons des supermarchés et dans l'alimentation des Français. Mais cela peut être néfaste pour la santé, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Pas à cause du soja, en fait, en tant que tel, Valérie Cohen, à cause des isoflavones contenus dans ces produits.
Les isoflavones sont des composés proches des hormones féminines, les œstrogènes. Ils peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, notamment sur le système reproducteur, s'ils sont consommés en grande quantité, indique l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Les isoflavones sont naturellement présents dans les légumineuses et dans les légumes, mais ce sont dans certains produits à base de soja que leur teneur est particulièrement élevée. Pour éviter une surconsommation, l'ANSES recommande de retirer ces produits des menus de la restauration collective, des crèches aux maisons de retraite, en passant par les cantines de lycée et d'entreprise. D'autant que certains individus peuvent être déjà trop exposés aux isoflavones via l'alimentation personnelle. Ainsi, parmi les enfants de 3 à 5 ans consommant des aliments au soja, 3/4 sont au-dessus du seuil défini par l'ANSES. Autre recommandation, adressée cette fois aux industriels de l'agroalimentaire, diminuer la teneur en isoflavones de leurs produits. C'est possible en choisissant certaines variétés de soja, certaines techniques agronomiques et en modifiant les procédés de fabrication. Les concentrations peuvent varier du simple au double entre deux desserts au soja et il y a 100 fois plus d'isoflavones dans les biscuits apéritifs à base de soja que dans la sauce soja, précise l'ANSES.
L'ANSES qui organise par ailleurs une table ronde aujourd'hui sur les compléments alimentaires. Les Français en raffolent. 1 sur 4 en consomment régulièrement en cure minceur, détox ou encore anti-stress. 11h10 à Paris, on vous retrouve. Emmanuel Bastide en wax aujourd'hui.